Hey, bon matin tout le monde. Je m'appelle Stéphane et je suis définitivement un outre-mangeur compulsif. M'entendez-vous bien? Oui. Pas vraiment, non? M'entendez-vous mieux comme ça?
Oui.
Oui, OK. À chaque congrès, puis quand je parle dans le micro, là, il y a un paquet d'idées qui me posent dans la tête. Qui sont...
Pourquoi?
On les nommera pas. On va y remettre à Dieu, par exemple. C'est important pour moi que je me rappelle, quand je vous dis que je suis un outre-mangeur compulsif, que je me rappelle c'est quoi que je veux dire par là. Quand je dis que je suis un outre-mangeur compulsif, je vous dis que j'ai un problème avec la nourriture, que je suis absolument incapable de gérer mon poids, ma consommation de nourriture, ma façon de manger, mes comportements alimentaires sans aide. Alors, dire que je suis un outre-mangeur, c'est pas juste un gros qui outre-mange ou qui mange beaucoup. Je suis quelqu'un qui a des comportements alimentaires qui sont troublants dans certains cas. Je vais essayer de vous en raconter quelques-uns pour l'identification. Ah, on va attendre que le sac arrête de sonner. Ouais. Je ne sais pas si vous étiez là dans le partage avant, là, mais c'était tellement un beau partage que je me dis, on pourrait laisser ça comme ça, puis ça serait beau. Alors, ça me stressait de partager après ce que j'ai entendu. Pas stressé dans le sens, là, comme j'ai rien à dire, mais stressé dans le sens que je ne voudrais pas défaire ce qui a été dit parce que ça disait tout, à mon avis. Alors, c'est ça. Fait que, on va dire, comme mon parrain m'a dit, t'as juste à raconter l'histoire de Stéphane, ce que t'étais avant, ce qui est arrivé, puis comment t'es maintenant. Mais je voulais surtout vous parler, moi, de la persévérance dans le mode de vie, parce que j'ai rencontré OA, j'avais 16 ans. Je suis rendu à 52 ans, donc ça fait 36 ans que je connais les outre-mangeurs anonymes. J'ai eu une rechute de 10 ans là-dedans et je suis de retour depuis les 16 dernières années. Alors, je vais surtout me concentrer sur les 16 dernières années de rétablissement, mais ça fait partie de mon histoire aussi, tout ce long cheminement-là. Puis, il y a un besoin pour moi de trouver des façons de rester engagé dans ce programme-là quotidiennement. Comme Claire le disait tantôt, là, c'est comme si je ne veux pas avoir faim, si je veux que ma vie reste quand même de façon équilibrée, j'ai besoin d'avoir une forme spirituelle. Puis ce programme-là m'apporte cette forme spirituelle-là. Et comment on peut faire pour répéter quotidiennement cet engagement-là que ce programme-là nous demande de faire? Alors, j'aimerais ça vous emmener dans ce petit bout-là. Mais tout d'abord, je vais me présenter comme outre-mangeur. Alors, moi, j'ai commencé jeune à outre-manger. Je vous dirais que vers l'âge de 6 ans, la compulsion faisait déjà partie de ma vie. Puis à l'âge de 9 ans, j'avais assez pris de poids, parce que je suis un enfant qui a connu l'obésité, pour que mes parents s'inquiètent de cette situation-là dans ma vie, m'emmène voir un médecin et qu'on cherche des solutions pour essayer de régler ça en famille. La solution à l'époque, elle s'appelait WW pour respecter l'anonymat de cet organisme-là. J'ai été inscrit, bien malgré moi, dans une salle où il y avait plein de madames qui se faisaient applaudir quand ils perdaient une livre, puis je me faisais aussi applaudir quand je perdais une livre. C'est ça. Mes parents m'ont mis au régime une première fois. J'ai perdu un premier 35 ou 40 livres. J'ai perdu le compte de ce moment-là. J'ai connu un sentiment de fierté immense de me retrouver mince la première fois à 9 ans. C'était un vrai cadeau dans ma vie et de sentir que tout le monde en famille, tout le monde alentour de moi était fier de cette affaire-là, ça a eu un impact négatif. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à l'âge de 9 ans, il s'est déclenché quelque chose en dedans de moi. C'était l'obsession de toujours être là, de toujours recevoir ça. Comme je suis un outre-mangeur compulsif, je ne savais pas que j'étais impuissant devant la nourriture, mais au moment où on m'a dit que j'avais atteint mon poids, ce soir-là, je suis allé fêter, même si j'avais 9 ans. Et j'ai recommencé à manger drette là, et j'ai repris tout le poids que j'avais perdu en quelques mois. J'avais tout repris, avec tout ce que... Qu'est-ce que tu as fait? Puis comment ça se fait que tu fais ça? Puis voyons, tu étais tellement bon. Puis avec toute la déception qui vient avec la reprise de poids, tout ça. dans mon esprit d'enfant, il y avait cette obsession-là de revenir dans la façon que j'avais mangé durant cette longue période-là. Je n'ai pas été capable, tout de suite. Ça a pris quelques mois, voire même quelques années, avant que je puisse reperdre encore une fois le plus que j'avais gagné et cette partie-là. Et à quelques reprises dans ma vie, j'ai passé du temps à faire ça. Je viens d'un milieu dysfonctionnel et il y avait un alcoolique en rétablissement dans mon entourage. Donc, j'ai été touché rapidement et très jeune par le mode de vie d'une autre fraternité, mais c'est quand même les mêmes étapes. Et je m'identifiais aux alcooliques. Moi, j'entendais des alcooliques partager, là, puis je me disais, « Asti, je suis pareil comme vous autres. » Je disais pas « Asti » probablement à l'époque, j'étais jeune, là, j'étais un petit peu trop jeune, quoique j'étais ado, je devais commencer à sacrer un peu. Ça sacrait chez nous. Ça fait que ça se peut que j'en lâche une coupe aujourd'hui. Là. J'entendais un alcoolique partager l'obsession qu'il vivait par rapport à l'alcool, comment ça se mettait dans son esprit. C'est comme, non, j'en prendrai pas, puis ben oui, je pourrais juste en prendre un, puis on va être capable ce coup-là. Puis c'était la même mosus d'affaires qui se passait pour ce que j'avais dans mon frigidaire ou ce que j'avais le goût de manger. Alors c'est comme, je me suis identifié très rapidement à ce genre de comportement-là, puis je disais, moi, là, je suis comme un alcoolique de la bouffe. J'avais 13 ans, 14 ans, puis je m'exprimais déjà comme ça dans cette autre fraternité-là. À un moment donné, j'ai entendu parler qu'à Montréal, il existait quelque chose qui ressemblait à Alcoolique Anonyme. Ça s'appelait Obèse Anonyme à l'époque. Et c'était OA qui avait été comme formé. En tout cas, on entendait parler. Mais j'étais un petit peu trop jeune. J'étais à l'extérieur de la ville et j'ai pas été. Et il y a eu une émission d'information publique que Jeannette Bertrand avait faite. Et j'ai vu des outre-mangeurs cachés là, de dos qui partageaient leur souffrance, mais leur rétablissement aussi avec Outre-Mangeurs Anonymes. Et j'ai décidé de trouver cette fraternité-là à ce moment-là. Alors moi, je suis arrivé il y a 36 ans avec un paquet de nouveaux dans une réunion OA à Montréal. Je pensais qu'il y avait 70 personnes dans la salle, 70 membres dans la salle. Finalement, il y avait, je pense, 6 membres, puis on était 64 nouveaux qui sont arrivés ce soir-là. Durant 10 ans de temps, je me suis laissé aimer par la gang qui était là, laissé gagner par l'amour que je trouvais là, laissé apprivoiser par rapport aux puissances supérieures, par rapport à toutes sortes d'affaires, le jargon qu'on apprend en haut. J'ai fait beaucoup d'expériences aussi. J'étais jeune j'essayais de manger des affaires, de ne pas en manger. Puis il y a des aliments qui me ramènent toujours à la même place. Alors, comme l'alcool, moi, j'ai dû admettre que certains aliments, c'était préférable de ne pas y toucher parce que c'est des aliments qui vont soit déclencher la compulsion ou soit déclencher l'obsession. Alors, puis c'est pas faute d'avoir essayé. Durant ces 10 années-là, je les ai essayés souvent. On arrête d'en manger, on en prend un petit peu, puis on essaie de le contrôler, puis on n'est pas capable. Puis si au bout de 2-3 mois, parce que ça ne s'arrête pas comme on veut, on rassaye encore, on n'en mange pas. Et là, on rassaye encore un an plus tard et ainsi de suite. Alors, c'est comme ces 10 années-là ont été un petit peu comme ça. Et à l'époque, on ne parlait pas beaucoup du programme de rétablissement. On parlait d'abstinence. Puis il y avait comme une sorte de nonchalance par rapport à comment on appliquait notre programme. Il y avait une nonchalance comment on appliquait aussi notre abstinence. C'est comme on s'abstenait de certaines affaires, puis on arrêtait ça là. Puis on attendait d'être prête pour faire notre programme. C'était la meilleure façon de faire parce que sinon, ça nous bousculait. Puis bon. Et malgré ça, moi, j'ai connu une perte de poids d'environ 70 livres. J'étais un adolescent qui avait peur de marcher sur la rue, qui ne restait pas tout seul le soir. Je me sentais invalide. J'aurais aimé ça, moi, être rendu sur mon lit de mort, puis pas avoir à franchir de l'adolescence jusqu'à la vie adulte. Alors, je ne savais pas comment vivre. J'avais l'impression d'être vraiment invalide. Alors, moi, j'aurais aimé ça qu'on m'emmène. Je ne voulais pas mourir, je ne me serais pas enlevé la vie, mais j'aurais aimé ça qu'on m'emmène à 75 ans et dire, bon, là, ma vie est finie. Je suis bien fier de tout ça. Puis, bye tout le monde. Puis, bon, tu sais. C'est comme si je ne me voyais pas passer à travers tout ça. Et OA m'a donné une capacité de vivre que je que j'avais pas. Alors moi, j'ai appris à vivre avec des membres OA, j'ai appris à m'affirmer, j'ai appris à me tenir debout, je suis retourné à l'école, je suis tombé en amour, je me suis marié, j'ai eu des enfants dans cette première vie-là OA, et tout ça, ça a pris beaucoup d'espace dans ma vie, puis à un moment donné, j'ai fait un petit peu moins de meetings. J'ai été un petit peu moins vigilant par rapport à mon plan alimentaire. Hier, j'entendais quelqu'un qui disait « J'ai besoin de me faire rappeler quotidiennement ou régulièrement que je suis impuissant devant la nourriture et que j'ai besoin d'aide. Puis pourquoi je ne dois pas outre manger pour aujourd'hui? J'ai besoin, moi, d'être en contact avec vous autres pour me faire rappeler ça parce que sinon, je l'oublie. » Et dans cette expérience-là, je l'ai oublié et je suis parti durant 10 ans de temps. Alors, pas besoin de vous dire que j'ai tout repris le poids que j'avais perdu. J'ai recommencé à manger comme avant. Je me suis retrouvé aux mêmes places, à la même place que j'étais avant d'arriver à OA. Et toutes sortes de comportements qui se sont ajoutés parce que c'est un mal qui progresse et il a progressé. Alors, je mangeais plus. Je mangeais de façon de plus en plus imposante. Et j'arrivais plus non plus à maintenir des relations avec mon entourage. Et cet aspect-là, pour moi, de la maladie est important parce que je me mettais en conflit avec tout le monde. J'étais comme un petit Christ, là, dans le sens. C'est comme, et comme j'avais connu 10 ans de rétablissement qui m'avait amené quand même une certaine légèreté, de la joie de vivre, du bonheur, presque du jour au lendemain dans cette rechute-là, je deviens méprisant, je deviens arrogant, je me chicane avec tout le monde, tout me dérange, je suis impatient, tellement que ma patronne là, me convoque dans son bureau pour me dire « Qu'est-ce qui t'arrive? » Voyons, la semaine passée, tu riais, tu chantais, puis là, tu fous le bordel partout. Qu'est-ce qui se passe? Puis j'avais dit à cette époque-là, j'ai rechuté comme un alcoolique, là. J'ai rechuté dans le sucre, puis elle m'avait dit « Arrête! » Mais j'ai pas été capable d'arrêter. Puis l'image que je vais vous donner pour vous parler de cette impuissance-là, c'est que c'est comme si j'étais dans un tube en verre, là, puis j'ai fait comme... Puis j'ai descendu là, durant 10 ans de temps, incapable de reprendre pied et de revenir d'en haut. Je l'ai essayé à plusieurs tentatives, mais je n'ai pas réussi à le faire. Je suis devenu de plus en plus aigri. J'ai fait du ménage alentour de moi, puis je vais juste vous donner un exemple. Là. J'ai ma mère avec qui j'étais assez proche comme ça, qui était rendue, qui appelait chez nous, puis qui, quand je répondais, elle me disait plus « Hey, bonjour mon fils, comment ça va? » Elle me disait « Est-ce que je pourrais parler à Nicole, s'il vous plaît? » Puis ma mère, elle vient de la Gaspésie, puis elle a un accent très prononcé, alors je savais que c'était elle, comme de raison. Je savais que c'était pas quelqu'un qui cherchait ma blonde, là. Puis je pouvais juste dire oui un instant, tu sais, parce qu'elle voulait pas me parler. Elle m'a même renié 3 fois durant cette période-là. Elle me disait, j'en ai plus de fils qui s'appelle Stéphane, parce que me mêlait pas de mes affaires, parce que je lui disais quoi faire. Écoute, je suis son enfant, là, puis je lui disais quoi faire, comment faire, qu'est-ce qu'elle devrait faire, qu'est-ce qu'elle devrait pas faire, puis comment elle devrait parler, puis comment elle devrait se comporter. Puis ça, c'est avec ma mère, mais je faisais ça aussi avec ma femme, mes enfants, mes confrères, consœurs de travail. C'est ça. Moi, la compulsion alimentaire, au-delà de la prise de poids, m'a amené dans ce genre de comportement-là. Ça m'a amené aussi dans une forme de schizophrénie. Aujourd'hui, je l'appelle comme ça, là. Quand j'outremange, moi, j'ai peur du diable, j'ai peur des esprits. Alors, je tombe dans une sorte de zone nébuleuse que je comprends pas, mais qui s'en va avec l'abstinence. Alors, c'est comme... juste pour vous montrer l'invalidité dans laquelle, pour moi, la compulsion m'emmène. J'ai aussi peur de marcher sur la rue. Moi, je mesure 6 pieds, puis je pesais 265 livres, et j'ai peur de me faire attaquer sur la rue. Alors, je travaille le soir, je finis à 11 heures, j'ai à peu près, comme d'ici au métro à marcher, là, puis je me promène avec mes clés de même, puis j'entends des souliers à talons hauts, on aurait de moins, là, puis le cœur me débat. Et j'ai peur que ce soit un complot, qu'on m'attaque, qu'on m'enferme dans un char, dans une valise de char, là, comme Pierre Laporte, là, mettons, puis qu'on demande une rançon à ma famille. Puis mon esprit, c'est, ils n'ont pas d'argent, ils ne seront jamais capables de me récupérer. Moi, là, je vis ça quotidiennement. c'est drôle comme ça, là, mais je suis dans cette énergie-là, je débarque de l'autobus, j'ai peur, je pars quasiment à courir pour me rendre chez nous, je débarre la porte, là, comme s'il y avait vraiment un maniaque en arrière de moi, je rentre dans la maison, première affaire que je fais avec mon manteau, mes bottes, tout ça, c'est de m'en aller au frigidaire, me crinquer avec du jus, de la bouffe, jusqu'à temps que je m'apaise et que je puisse enlever mon manteau, enlever mes bottes, puis sentir. Et je suis un adulte, père de deux enfants, qui vit ça de façon régulière. On a un chalet, ma femme part pour la fin de semaine, parce que je travaille une fin de semaine sur deux, et là, j'ai des roches de ils appellent ça du craving en anglais, là, ou je sais pas comment ils ont nommé ça matin, là, mais des compulsions alimentaires, alors me fait venir du restaurant, des grandes quantités, on pourrait manger six là-dessus, et je mange ça d'une façon tellement avide, là, que je m'étouffe avec. C'est comme ça bloque dans mon... Puis là, je bois, puis c'est comme, je me dis, ça n'a pas de bon sens, mais je continue de manger comme ça. Je suis incapable de ne pas faire ça. Puis là, je m'enlise dans folie, de la peur, puis tout ça, et ainsi de suite, puis ça finit plus. Alors, je suis un outre-mangeur compulsif qui a perdu la maîtrise de sa vie. Alors, il y a 16 ans. J'ai jusqu'à quelle heure?
Moins quart,
OK. Il y a 16 ans, je suis dans un bas-fond que j'ai jamais connu. Je suis dans un désespoir que j'ai jamais connu. J'ai plus personne qui veut venir travailler avec moi. J'ai une femme qui veut s'en aller. J'ai des enfants, quand je rentre dans la maison, qui s'en vont dans leur chambre. Ma mère veut plus me parler. J'ai un médecin qui se demande comment il va prendre soin de moi parce que je suis hyper tendu, je veux y faire plaisir, j'ai peur qu'il me chicane. Alors, j'arrive puis j'y tends mon bras pour qu'il prenne ma pression, puis je suis arrangé de même parce que j'ai peur qu'il trouve ma pression trop haute. Fait que des fois, elle est trop haute, fait que là, il augmente les pilules. La fois d'après, j'ai été un petit peu plus clean. Fait que là, il prend ma pression, je suis trop bas, il sait pas quoi faire avec moi. Des fois, je peux aller jusqu'à prendre 10-12 livres dans le mois que je l'ai vu avant et le repère doit être le plus proche possible du poids qu'il m'a vu en me purgeant la journée d'avant, en ne mangeant pas, même si mon rendez-vous est à 3 heures l'après-midi puis que je n'ai pas besoin d'être à jeun, il va juste prendre ma pression. Là, ben moi, je suis à jeun. Bois pas d'eau, bois pas de café, mange rien. Puis j'attends qu'il prenne ma pression puis qu'il me pèse pour me dire, ben, t'as juste pris 2 livres. Moi, j'ai pris 12 livres puis j'en ai reperdu 10. C'est là, ce stress-là. Si ça s'appelle pas perdre la maîtrise de sa vie, ben je me demande comment ça s'appelle. Je me pèse aussi 40 fois par jour. Puis quand je dis 40 fois, là, je ne lésine pas. Il y a des tuiles dans la maison, chez nous, puis il y a des planches, là. Puis je commence à la première, puis là, ça pèse 200, mettons, 48. Puis là, 248, puis 248, 249, oh, 248. Je reviens même ces anciennes tuiles pour être sûr, c'est... Puis je fais le tour de la maison, puis là, je bois de l'eau, puis je me pèse, puis je vais à la toilette, puis je me pèse. Puis je fais ça toute la journée. Une journée, là, c'est comme juste... Pourquoi? Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, tu sais, tu perds une livre, là, Steph, sur le tas, là, ça paraît pas. Tu sais, dans le sens... Mais moi, là, je suis dans un toc, je suis dans une obsession que ça maigrisse à me peser. Puis c'est comme si je me pesais, là, je vais peut-être tomber sur une tuile où je pèse 175. Ça va faire comme... je sais pas. C'est pas rationnel. C'est pas rationnel, c'est ça. Alors, je reviens, je suis dans cet esprit-là. Je reviens il y a 16 ans, dans l'énergie du désespoir. Puis j'aime bien démontrer comment je suis arrivé la première fois puis comment je suis arrivé la deuxième fois. La première fois, là, j'étais sur un paquebot puis je tombais à la mer, là. Puis là, je savais que je me ferais manger par les requins, que je me nairais. Ils ont crié « Un homme à la mer! » Ils ont arrêté le paquebot. J'ai sorti mon plus beau crawl. Puis j'ai nagé jusqu'au bateau. J'ai dit, laissez faire! Je vais monter toute seule! Puis je suis arrivé un petit peu comme ça à 16 ans, je vous dirais. Dans le sens, c'est comme je savais que j'avais besoin d'aide, je savais que j'avais un problème avec la nourriture, mais j'étais-tu prête à faire n'importe quoi puis à accepter l'aide qu'on m'offrait? Non. Puis dans où on disait en plus, prends ce que tu veux, puis laisse le reste. Fait que moi, j'ai pris le fun, j'ai pris les parties, j'ai pris les trips des meetings, puis j'ai laissé faire le reste qui était notre programme de rétablissement et tout ce qui vient avec. Sauf que 26 ans plus tard, j'étais encore à la mer, plus épuisé que jamais. Et là, quand on a crié un homme à la mer, avec le toupette d'en face, j'ai pogné le chose qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont tiré jusqu'en haut. Je suis arrivé en haut. Ils m'ont monté. Ça a fait comme, OK. Moi, là, dans ma première expérience, j'ai pas essayé de mettre ce programme de rétablissement-là en pratique. Alors, je vais l'essayer. Si jamais ça marche pas pour les OA, ben j'irai me coller en bas d'un pont, puis on verra ce que ça va donner. Dieu merci, 16 ans plus tard, je cite, plus heureux que jamais. Ma femme qui voulait s'en aller est encore là. Les employés qui ne voulaient plus travailler avec moi, ils ont pris leur retraite. Mais les jeunes qui travaillent avec moi, les plus jeunes qui travaillent avec moi, ils ont le goût d'être avec moi. Puis je trouve ça le fun de dégager une énergie qui va dans le sens d'attirer les gens au lieu de repousser les gens. Alors, il y a ce beau cadeau-là qui m'a été offert dans ma vie. Alors, c'est ça. Fait que je suis arrivé avec l'énergie de mettre ce programme-là en pratique. Et aujourd'hui, avec du recul, là, je me dis, oui, il y a ma personnalité compulsive, mais je pense qu'il y a eu comme la grâce de cette force, de cette puissance supérieure-là qui m'a aligné comme il faut. Qui m'a vraiment, là, parce que j'ai des fioles que j'essaye d'emmener dans le programme, puis ils en arrachent, ils essayent, Crispy. Ils sont même pas capables de faire l'effort de mettre les 15 minutes que je leur offre de faire avec eux autres. Puis je sais que j'ai pas été capable, à certains moments, de le faire. Donc, c'est comme... Je pense qu'il y a eu la grâce qui m'a goroché dans le programme pour que je puisse le faire. Alors, je me suis engagé à travers les premiers meetings que j'ai faits à tenter de mettre le programme de rétablissement en pratique. Je ne savais pas encore comment. Je le dis dans chaque partage, je vais leur dire encore. Il y avait une fille, une vieille membre que je connaissais qui était à Ville-Saint-Laurent, qui faisait la documentation, puis... est arrivé dans la salle en criant « Aimez-vous ça, vous autres, les combos? » Et moi, les combos, j'aime ça parce que on en mange toujours un peu plus puis on goûte à toutes sortes d'affaires. Puis ça, c'est comme je suis un trop mangeur. Alors, elle a dit « Si vous avez si vous avez décidé de vous engager à fond dans le programme de rétablissement, là, ben, j'ai le combo qu'il vous faut. » Puis là, elle montre le cahier d'exercice des 12 étapes et le livre des 12 étapes. Puis elle nous dit « Ça, ça va vous aider à passer à travers le programme de rétablissement. » Moi, je suis parti avec ce désir-là de passer à travers le programme de rétablissement. Et je vais vous dire, c'est sûrement la plus belle et la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie pour rétablir ma vie, pour renaître à ma vie. J'aime le thème, là. Renaître à ma vie avec ce cadeau-là que ça m'a offert. Alors, j'ai appris à travers la première étape, un, que j'étais un menteur, que j'étais malhonnête. Parce que la première étape m'a fait travailler la rigoureuse honnêteté, de regarder honnêtement mes comportements alimentaires, ma façon de manger, tout ce que j'avais fait, dont me peser 40 fois par jour, dont me purger pour que mon médecin puisse me peser, t'sais, puis que je pèse le moins. Vraiment regarder ça de façon honnête, de ne pas mettre aucune réserve dans ce que j'écrivais là-dedans. Je ne le faisais pas pour faire plaisir à personne, je l'ai fait parce que je voulais ne plus jamais retourner outre-manger comme avant. J'ai réalisé aussi que les comportements qui venaient avec la compulsion alimentaire étaient beaucoup plus graves que juste être gros, pas avoir de linge à me mettre sur le dos de saison en saison. Que j'avais bousculé mes enfants, que j'avais bousculé le monde alentour de moi, que il n'y a plus de monde qui voulait être alentour de moi. Que j'avais mis ma vie en danger aussi, dans des comportements alimentaires vraiment dangereux. Que je ne me respectais pas, que je n'écoutais pas mes limites. Que j'avais ce grand besoin de me faire aimer, qui a fait que, dans certaines circonstances, j'ai fait le tapis. Puis j'étais prête à donner ma vie à des étrangers qui avaient mauvais caractère. Puis ça a sorti, ça. Moi, là, si t'as mauvais caractère et t'es pas fin avec moi, ben t'es une personne renommée pour être pas gentil avec les gens, puis que tu m'aimes. C'est comme si ça veut dire que j'ai de la valeur. C'est ce que j'ai compris dans mon cheminement. Alors, je donnais beaucoup d'intérêt, moi, à ce genre de personnalité-là dans ma vie. Alors, c'est comme quand j'ai pris conscience que la compulsion alimentaire m'avait emmené jusque-là, j'envoie chier le monde que j'aime puis qui m'aime alentour de moi puis qui sont fins avec moi, mais je donne de l'attention à ceux qui sont pas fins, juste pour me faire aimer. J'ai vu l'ampleur de ma maladie à travers tout ça. J'ai découvert aussi... une puissance supérieure. On parle d'en haut de mettre en place une puissance supérieure, de concevoir. Hein? C'est vraiment concevoir, c'est créer. Hein? C'est comme créer une puissance supérieure qui nous convient. Alors, moi, on m'a encouragé dans ce programme-là à définir ça serait quoi ma puissance supérieure. Alors, moi, j'ai donné des attributs qui convenaient exactement au type d'outre-mangeur que je suis. Alors, il est spécialiste d'un schizophrène, tu sais, là, qui ont peur du diable, qui ont peur de se faire enlever, tout ça. Alors, ça, il y avait besoin d'avoir ça. Spécialiste des troubles alimentaires tels que j'ai. Moi, je suis un mangeur de grande quantité. Alors, ça prend quelqu'un qui comprend bien ça et qui est capable de me gérer ça. Alors, j'y ai donné ce genre d'attributs-là. Et à chaque fois que j'ai découvert d'autres problématique de ma personnalité, ben je l'envoie se former. Mon Dieu, cette nuit, il va chercher la formation pour savoir comment on va faire pour gérer ça. J'ai besoin de toi là-dedans. Puis, il y a toujours eu quelque chose qui s'est mis en place dans cette ouverture-là. Une personne qui est arrivée sur ma route, un parrain, un membre, des confrères, des consœurs de travail qui sont venus comme emboîter tout ça, juste parce que j'ai osé mettre sur papier, voici à quoi ça va ressembler, cette affaire-là. Puis c'est à ça que je vais essayer de croire, moi, pour que ça arrête de me faire manger. Puis je dois vous dire que quand j'avais 16 ans, là, je partais de plus loin, là, puis on m'avait dit que juste fermer mes yeux puis penser à la belle gang avec qui je cheminais, là, dans mes groupes, là, ça serait assez pour que j'aille pas autre manger. Alors, à 16 ans, pour pas rentrer dans un dépanneur, là, je fermais mes yeux, puis j'ai dit, mon Dieu, ma gang, aidez-moi à pas passer devant le dépanneur, puis je faisais un carré, assis, un grand carré de chemin pour éviter de passer devant le dépanneur, puis j'ai pu cumuler des journées d'abstinence grâce à cette conception-là. Alors, c'est comme, ça prend pas grand-chose. D'abord que vous avez quelque chose. Quelque chose qui vous aime, puis qui est prêt à vous aider. Moi, j'ai mis tous les gens de mon bord, il est spécialiste. C'est comme... c'est ça. Un coup que j'ai eu ça, la troisième étape me demandait d'abandonner ma vie puis ma volonté aux soins de cette force-là, aux soins de cette puissance-là. On m'a encouragé à regarder c'était quoi ma vie. Alors, ma vie, c'était je pars travailler, je suis en crise toute la journée. Il n'y a plus personne qui veut venir travailler avec moi. J'haïs tout le monde. Je suis fatigué, j'arrête pas de manger, je me cache. Moi, je travaille dans un centre d'hébergement, là. Je volais de la nourriture, je cachais mes poubelles. Moi, je mangeais beaucoup, là, avant d'arriver au dîner, là, je mangeais beaucoup, puis je mangeais des biscuits de résident, là, puis c'était dans des petits sacs. Puis comme j'en mangeais tellement, je regardais la poubelle, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Je revirais la poubelle à l'envers, tu sais, pour cacher que j'avais pris, mettons, 22 petits Christophe de petits sachets de biscuits, là, avant le dîner, pour être en mesure d'arriver au dîner. Puis dire à la fille de la cuisine qui me demandait à chaque jour, c'était une amie, là, elle me disait, tu manges-tu un cochon aujourd'hui ou bien non, tu manges raisonnable? Elle me demandait ça à tous les jours. Puis il y a des journées, je disais, va manger raisonnable. Ah, puis fuck, si, envoie-moi ça comme un cochon. Puis elle commençait raisonnable, je voyais l'assiette, puis là, c'était comme, elle m'en mettait plus parce que. Alors, c'est ça. On me demandait, c'est ça, j'ai regardé ma vie, qu'est-ce que j'avais à laisser tomber. J'avais une job que j'aimais pas, du monde qui m'aimait pas dans ma job, j'étais écœuré d'être là. Je me battais avec la nourriture, je me battais avec la maladie. J'avais une femme qui voulait s'en aller. J'avais des enfants qui n'avaient plus le goût d'être à côté de moi. C'est à ça que je tenais le plus, garder ça. Et la troisième étape, elle me demandait de dire, OK, mon Dieu, je te le remets ça aussi. Ma femme, mes enfants, je ne veux plus aller manger, moi. Mais je vous rappelle que c'est un Dieu d'amour. C'est pas un chien. Alors, ma blonde est encore là, plus amoureuse que jamais. Un autre beau cadeau de ce programme-là. Mais l'effet, pour moi, de prendre le temps de mettre sur papier, OK, je te donne jusque ça, c'est une façon de dire, je vais te faire confiance sur le poids que je dois peser, comment je dois manger, comment je dois vivre mes affaires, où est-ce que je dois travailler, avec qui je dois être, et ainsi de suite. Moi, là, je suis prête à me laisser aller. Et on dit dans notre documentation là, que plus grand sera ce lâcher-prise, là, plus spectaculaires seront les résultats. Moi, je me considère là, comme quelqu'un qui vit quelque chose de spectaculaire comparativement d'où je viens. C'est peut-être bien ordinaire pour les gens qui ont des vies spectaculaires, mais moi, dans la condition où j'étais, incapable de rester tout seul à la maison, incapable de me faire confiance, incapable de me trouver un travail qui avait de l'allure, incapable d'être avec les gens... c'est extraordinaire ce que je suis capable de faire dans ma vie présentement avec ce programme-là. Alors, c'est comme c'est ça. Ensuite, on rentre probablement pour moi dans ce qui a été le plus bénéfique, je dirais, là. Puis qui est vraiment l'aspect qui est le plus important de mon programme puis de mon rétablissement, là, c'était d'aller faire le travail entre la quatrième et la neuvième étape. Ce que peu d'entre nous avaient fait dans ma première vie et qui, malheureusement, quand je suis revenu, peu avaient aussi passé en travers. Il y avait beaucoup de monde qui avait amorcé des tentatives puis il y avait beaucoup de monde en processus de quatrième étape, mais peu avaient été loin dans le programme. Puis on ne savait pas trop comment nous orienter là-dedans, parce que moi, je suis quelqu'un qui a posé beaucoup de questions. Puis comment tu fais ça, toi, ta quatrième? Comment tu fais ta cinquième? Puis tu sais, là, dans le sens, c'est comme... Puis il y avait peu d'exemples, bien du monde... C'était nébuleux, en tout cas. Les réponses que j'ai reçues étaient assez nébuleuses. Puis il y a quelqu'un qui, à un moment donné, m'a dit... Moi, je me suis collé au gros livre des Alcooliques anonymes. Dans le gros livre des Alcooliques anonymes, il y a le chapitre « Notre méthode ». Alors, va fouiller là-dedans, puis tu vas trouver l'angle dans laquelle je te suggère d'aller faire ton programme. Et dans ça, il n'y a pas de niaisage. En tout cas, j'ai aimé, moi, l'aspect directif de tout ça, puis qui est correct. Dans où on est plus fleur bleue, puis on se prend avec plus de douceur, puis je pense qu'on a besoin de tout ça aussi. Mais à un moment donné, on peut pas... Ben, en tout cas, j'ai pas envie de passer 30 ans à me flatter à bédaine, puis à me demander si, tu sais, dans le sens, c'est comme à un moment donné, il y a comme une énergie qui vient d'Alcoolique anonyme qui, pour moi, m'a fait du bien, qui faisait comme, tu niaises pas avec le POC, tu te ménages pas, puis c'est ça que tu as à faire, puis je veux dire, tu ménages pas ta petite personne, tu y vas. Alors, je suis parti avec ça, et j'ai passé entre la... Puis je veux aller tout de suite à partir des étapes d'entretien parce que j'ai fait ce grand nettoyage-là entre la 4e et la 9e. J'ai vraiment l'impression que je suis rentré dans ma maison, que j'ai enlevé les toiles d'araignée, que j'ai gratté la peinture, que j'ai jeté les meubles qui étaient plus bons, j'ai lavé mes vitres, j'ai repeinturé. J'ai mis ça le plus clean que je pouvais et c'était habitable. Habitable sans avoir besoin d'outre-manger, habitable sans avoir un paquet d'affaires qui me ramène toujours dans mon histoire du passé ou si je suis en tabarnak puis j'ai de la peine puis tout ça. Alors, le grand nettoyage avait été fait. On arrive en 10e étape, puis il y a une 10e étape qui nous dit qu'il va falloir entretenir ça régulièrement, cette affaire-là. Alors, on va continuer de faire l'inventaire, on va continuer de trouver des torts, on va continuer d'admettre nos torts, un peu comme on a fait en 4e puis dans le processus. Quand j'ai des torts, généralement, j'ai des traits de caractère qui sont reliés à ça. C'est toujours les mêmes traits de caractère. Ce que j'ai trouvé en 4e étape, là, ben, dans mes 10e, c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Toujours les mêmes traits de caractère qui sont collés à Stéphane, qui sont revenus à chaque fois dans chacune des situations, tout ça. Il me reste 10 minutes jusqu'à moins 4, tu m'as dit, c'est ça? Moins 4, OK. Il y a à peu près 8 ans, je suis rendu à ma 10e étape. Et là, j'ai un estique de problème. À chaque fois que je suis confronté à un comportement malsain qui appartient à l'aspect maladif ou à des défauts de caractère que j'entre dans de moi, j'ai pas le goût de faire ma 10e. À chaque fois que j'ai mangé une affaire de plus, une tranche de pain de plus, une prune de plus, parce que je faisais ma 10e alimentaire aussi à l'époque, je veux pas faire ma 10e. Fait que là, je fais ma 10e quand je suis bien clean, puis quand ça va pas, j'arrête. Et là, j'arrête, j'attends que ça passe. Puis quand c'est passé, je reprends ma 10e. T'sais. Pas à ça que ça devrait servir. Si on veut être dans rigoureuse honnêteté, une 10e, ça devrait être de me regarder quotidiennement puis surtout regarder les aspects plates de ma vie pour continuer de retravailler ça. Puis j'y arrivais pas. J'y arrivais vraiment pas. J'ai essayé de le faire mentalement. J'ai essayé de le faire par écrit. Je me suis fait toutes sortes de feuilles, une 10e en béton, ainsi, mais je suis pas capable de la mettre en place. J'arrive au congrès il y a 8 ans. Je partage ça avec une vieille membre. Elle me dit, « C'est drôle que tu me parles de tout ça. » Ça fait à peu près 6 mois, moi, que je la fais quotidiennement. Puis je me suis engagé avec ma marraine à y envoyer. Puis elle dit, « On se l'envoie. » Je ne la lis pas nécessairement, mais moi, ça m'a obligé, ça m'oblige. J'ai un engagement envers moi-même de le faire quotidiennement. Puis je le fais. Puis je dis, « Hey! » Acceptes-tu que je reçoive ta 10e, puis je t'enverrai ma 10e? Ou en tout cas, je n'ai pas demandé si elle voulait la recevoir, mais t'acceptes-tu que je te donne ma 10e? Puis elle m'a dit, bien sûr. T'sais. Et j'ai joint mon parrain à ça. Alors, j'ai dit, je peux t'envoyer ma 10e en même temps. Et j'ai commencé à recevoir la dixième, parce que l'autre, elle m'a dit, « Va te l'envoyer, la mienne. » Et j'ai commencé à recevoir la dixième d'un autre outre-mangeur qui n'était pas parfait. Si vous saviez le cadeau que ça l'a mis dans ma vie, d'avoir quelqu'un qui écrivait, qui avait outre-mangé la veille, une tranche de pain de plus, qui l'écrivait, qui était capable de dire, là, « J'ai été obsédé hier, esti. J'ai passé ma journée dans l'obsession. » C'était comme, elle écrivait ça, je lisais ça, moi, c'est comme, j'ai été abstinente aujourd'hui. Non, j'ai été obsédée toute la journée, tout ça. C'était comme, waouh, ça peut être aussi simple que ça, tu sais, là, c'est comme, ça peut être aussi simple que ça. Et tranquillement, j'ai appris à faire confiance au processus, à juste dévoiler, à juste continuer de regarder honnêtement l'outre-mangeur que je suis et que je serai. Probablement jusqu'à la fin de mes jours, à moins qu'on invente à un moment donné une pilule là, qu'on va tout prendre puis on va tout fermer ça. Wow. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore inventé. Et je dois vivre avec le bonhomme impuissant qui reste impuissant malgré que je vois bien. Là. Moi, là, quand je suis fatigué, j'ai plus faim. J'ai le goût de manger plus mal. Je suis attiré par des affaires qui ne m'attirent pas quand je suis en forme spirituellement puis quand je suis reposé. Et ça, je suis obligé de dealer avec ça. J'ai beau avoir un plan alimentaire en béton puis c'est écrit que c'est ça que je mange, quand mon esprit outre-mangeur n'a pas envie de manger ce qu'il y a là, j'ai besoin d'aide. Je ne suis pas capable toute seule. Et Dieu, là, j'ai bien beau dire, « Mon Dieu, aide-moi! Mon Dieu, aide-moi! » Asti, ce n'est pas de même qui m'aide. Il m'aide quand je pense, « Asti, j'ai faim, j'ai besoin d'aide. » Je prends le téléphone, j'appelle un autre outre-mangeur qui va me dire, « Es-tu fatigué? As-tu respecté ton plan alimentaire? Y a-tu quelque chose qui t'a dérangé? » À chaque fois, j'ai pu mettre... C'est arrivé quelques reprises avec mon parrain qu'on n'a pas trouvé c'était quoi, puis il me disait, « C'est normal pour un outre-mangeur d'avoir faim. » C'est comme, « Es-tu capable de ne pas manger pour la prochaine demi-heure? » Ah, OK. Bon, ben, et de faire le pas comme ça. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de mes jours, je suis un outre-mangeur. On n'a pas la promesse. Pour moi, aller bien, ce n'est pas de plus jamais avoir la fin de ma vie. C'est d'être capable de pogner le téléphone et dire, j'ai besoin d'aide. C'est ça, quelqu'un qui va bien, pour moi, en tout cas. C'est de même que j'ai le goût d'aller bien, parce que ça me permet, moi, de développer des relations avec des gens extraordinaires. De vivre des choses extraordinaires avec chacun de vous autres. En tout cas, il y a des belles histoires de rétablissement. J'ai appris tellement d'affaires. C'est ça. Comment je persiste? Il est arrivé la même affaire avec la 11e étape. Méditer, là, pour moi, c'est probablement l'étape la plus difficile. On dit devant certaines de ces étapes, on aurait pensé trouver une méthode plus facile, plus douce. Là. S'asseoir et s'arrêter. Pour quelqu'un de compulsif comme moi, là, c'est probablement la chose la plus difficile à faire. Moi, maintenant, mais juste donner un exemple, je suis dans un centre de méditation zen, austère. Là. On mettait même une robe brune. On s'installe sur un coussin, puis je suis là, puis moi, je me bats là, contre « Tabarnak, ça n'a pas de bon sens que je ressuscite 20 minutes, 30 minutes, astie, puis là, pourquoi je suis venu ici, puis là, puis il y a juste ça, puis j'ai chaud, puis j'ai chaud, puis j'ai chaud aussi. » Je sens la sueur qui me rentre en dessous de l'affaire brune. Là. Ça me coule sur le genou, puis je suis en culotte courte. Là. Puis il y a une flaque qui s'installe sur le coussin. Tellement que quand on s'est levé pour marcher, la madame qui fait partie du centre, elle touche. Ouais, qu'est-ce que c'est là? J'ai sué, moi, là. J'ai sué comme si je venais de monter l'Everest. Puis j'étais juste, tu sais, comme... Mais il faut commencer quelque part. C'est comme... La même chose. Il est arrivé quelque chose. Moi, je m'étais inscrit avec mon parrain quand on a fait ça. Fait que je faisais 3 semaines, j'arrêtais, je recommençais. Puis comment je fais pour installer ça, tout ça? Puis à un moment donné, avec d'autres membres, à force d'entendre quelqu'un, j'ai fait ma méditation un matin, j'ai fait ma dixième, j'ai fait ma méditation. Ça a fait comme, je vais laisser tomber mes critères austères, là. Puis d'en haut, on a une petite phrase qui dit, la seule mauvaise méditation... qu'on fait, c'est celle qu'on ne fait pas. Alors, moi, je me suis donné des petits objectifs. Un petit objectif de 2 minutes pour commencer. Alors, on regarde l'heure, puis... Asti, il me reste 1 minute. Asti est faite. Il me dit que pour aujourd'hui, j'avais fait ma méditation. Depuis les... Je pense, ça doit faire un bon 4 ans, au moins 5 ans, quotidiennement, là, je suis arrivé à faire des 10 minutes, des 15 minutes, maintenant des 20 minutes, avec beaucoup moins d'intensité, quoique des moments que c'est encore de même, c'est comme, assis, OK. J'ai fait 5 minutes aujourd'hui. C'était le plus que je suis capable de faire dans l'énergie que j'étais. Mais mon Dieu, pas une mouée. Puis juste ça, souvent, ça me donne juste le... d'avoir l'impression que j'ai fait quelque chose pour moi, dans le sens de ce programme-là. Parce que il y a 16 ans, dans un congrès, il y a une membre OA qui avait 8 années d'abstinence. Oh, ouais, je viens de penser au son, ça va être lettre, ça. Toutes les bruits que j'ai fait dans le micro. Il y avait il y a une membre qui, il y a 16 ans, avait 8 années d'abstinence. C'était ma première 8 ans. J'en avais pas vu avant ça, là. Puis elle était resplendissante, puis elle allait bien, puis elle était drôle. Puis elle nous avait dit, durant son partage, que sa moraine lui avait dit que ça faisait un petit peu, juste un petit peu, chaque jour, là, elle ne retournerait jamais manger comme avant. Moi, là, je suis parti avec ça cette année-là, là. Et depuis ce temps-là, je me suis dit que tant et aussi longtemps que je vais mettre de l'effort, pas à aller faire un meeting, pas à appeler ma moraine, pas à écrire des affaires, pas à mettre les outils en application, mais dans le sens de faire avancer mes étapes, où est-ce que je suis rendu, si minime soit-il, ça, je ne retournerai plus jamais outre manger comme avant. Et 16 ans plus tard, je peux vous dire que je ne suis jamais retourné aller manger comme avant, sinon à quelques reprises, lors d'un repas, si ça s'est emballé, puis j'ai mangé dans le chaudron, je l'ai dévoilé tout de suite. Ça s'est arrêté là. Et j'ai pu reprendre la route au prochain repas, parce que j'ai des gens dans mon entourage qui me disent, « As-tu le goût de rester sur la voie d'accotement, puis t'en es dans le canal? Ben non, t'as le goût de revenir ça à 20. » Moi, j'ai le goût de rester ça à 20. Alors, s'il y a un repas qui s'est scrappé, je le dévoile, rigoureuse honnêteté qu'on me demande de faire. Je le dévoile, on se ramène sur l'autoroute, prochain repas. Je m'engage à le prendre selon le respect de mon programme alimentaire. Et ça reste comme ça. Il arrive moins quart. Il est... À quelle heure, moins quart? On est quoi, là? 11h, midi moins quart? Il est midi moins quart. Moi, il y a 16 ans, il était 9h10. Lors de mon premier meeting. Et le conférencier qui partageait a dit, il est 9h10. Si tu n'as pas mangé en cachette depuis que tu es rentré dans la salle ici, ben tu es au moins abstinent depuis ce temps-là. Là, puis ça peut commencer maintenant. Et moi, là, je vais bien depuis ce temps-là. Grâce à ce programme-là qui m'a amené à vivre ce que je viens de vous partager là. Alors, il est midi moins quart. Si tu n'as pas mangé en cachette depuis midi moins quart, c'est possible de se coucher à soir dans l'abstinence. Alors moi, je vous souhaite de finir la journée dans cet esprit-là. Puis merci d'être dans ma vie, parce que sans vous autres, je suis un outre-mangeur qui a la tête dans le frigidaire, qui peut être peut-être même mort à l'heure qu'on est là. Puis c'est certain qu'il n'y a pas une qualité de vie comme je peux la retrouver là maintenant. Alors, bonne fin de journée. Merci. Mmh.